pas, je ne veux pas, c'est mon droit.
Dégenré, l'émission féministe pour déranger.
Un jeudi sur deux.
De 19h à 20h. Une heure de féminisme.
Sur Radio Campus Grenoble, 90.8. You got a tall body, hairy body, brown body. Listen to mommy, not one body
bad. Everybody a good body and that's facts. Bonjour.
Bonjour. Bonjour Dégenré.
Et oui, alors on se retrouve sur Dégenré, 90.8 sur Radio Campus Grenoble. Et aujourd'hui, on reçoit Fatou pour parler de ton bouquin Fragment et aussi de spectacle. Et on profite de ta venue à Grenoble puisque tu étais sur une semaine...
Marathon.
Marathon. Tournée, oui, entre deux... Non, il y a eu quoi? Un spectacle, présentation de bouquin et atelier.
Ouais.
Ouais. Du coup, on pourra reparler un petit peu de ça aussi si on a le temps. Mais, donc, c'est un bouquin qui s'appelle Fragment, qui est paru à l'automne 2021. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça s'est passé?
Eh ben, ça a commencé par une invitation, une proposition des éditeurs et des éditrices de Terrasse en février 2020, où il y a des personnes qui savaient que j'écrivais et du coup il y a eu la proposition que ce soit dans le cycle d'écriture contemporaine des éditions Terrasse. J'ai dit oui et à partir de ce moment-là, pour moi, l'aventure était lancée. Ça a pris un peu de temps, parce que l'invitation, elle est arrivée février 2020, et j'étais en bouclage, en tout cas moi de mon côté, avant les échanges avec la maison d'édition, fin avril 2021. Du coup, voilà, j'ai eu un peu plus d'un an pour réfléchir à quoi mettre dedans, comment organiser les choses, etc.
Toi, tu avais déjà pensé
à éditer? À éditer?
Ouais.
Pas du tout.
Une grande première.
Ouais.
Et est-ce que l'aventure était intéressante? Souvent avec les maisons d'édition, ça peut très bien se passer ou pas du tout?
Là, pour moi, c'était vraiment une bonne expérience parce que c'était un travail. Comme c'est une petite maison d'édition indépendante, l'aspect collectif, il était plutôt intéressant. Pas de pression, pas de demande précise. Après, il y a eu des pistes et des échanges et je pense que c'est ça que j'ai trouvé intéressant, moi. Enfin, dans ma manière de m'organiser en général dans la vie, il y a des choses que je fais toute seule, mais aussi il y a des choses que je fais en collectif. Et chez Terrasse, j'ai retrouvé ça un petit peu. C'est-à-dire être dans des interactions, aussi avoir du soutien dans les grands moments de doute. Et en tout cas, ouais, moi, c'est une expérience que j'ai vraiment trouvée intéressante.
Et dans ce partage de voix, de ce travail en collectif, il y a aussi différentes manières pour toi d'écrire, de parler, de prendre cette voix, parce que dans ton livre, tu écris de la poésie, de la prose, il y a de la performance. Mmh. Et est-ce que c'était un choix de toute façon de départ de rassembler comme ça, ou est-ce que tu t'es dit que c'était que tu voulais pas défendre plutôt une écriture plutôt que par rapport à une autre? Comment ça s'impose, toutes ces écritures? Parce que c'est pas fréquent quand même.
Pour moi, c'était un peu comme une évidence, comme j'écris de différentes manières et sur différents sujets. En tout cas, il n'y avait pas quelque chose de linéaire. Même quand il y a eu la demande, je ne me suis pas dit « Ah bah tiens, oui, effectivement, je pourrais me mettre à écrire un roman ou quelque chose qui irait de A à Z avec une cohérence. » Et il y a une cohérence quand même dans l'organisation des textes. Peut-être on pourra en parler, mais comme c'est ma manière d'écrire, à la fois pour moi... à la fois pour la radio, à la fois pour mon solo et aussi dans des cadres politiques à des moments, pour moi, c'était une évidence que ce serait plutôt des fragments, donc des morceaux de choses qu'on rassemblerait et aussi d'avoir une proposition où, en fait, les personnes qui lisent peuvent piocher. Pour moi, c'était important, en tout cas, de fabriquer un objet livre où les gens, ils sont pas obligés de tout lire et ils se sentent pas perdus. C'est pas grave, en fait. Mais comme moi, je fais dans la vie, quand j'ouvre un livre, et que j'aime pas, j'aime bien le refermer, le reprendre plus tard, ou juste lire quelques chapitres, laisser le reste. Et que pour moi, c'était important que ce soit fragmenté de cette manière-là. Après, il y a eu tout un travail autour des liens, du chapitrage, de est-ce qu'on met de la poésie au début et après on passe complètement à autre chose et on n'y revient pas. Là, finalement, le choix qui a été fait, c'est qu'il y a de la poésie au milieu, une interview, quelque chose autour de la performance, et puis re de la poésie, des textes d'atelier à la fin. Mais ça aurait pu être autrement, mais en tout cas la cohérence du livre et de la manière dont ça s'est fait, on a fait ce choix-là et que moi j'en suis plutôt contente.
Et peut-être sur l'ordre des textes, est-ce qu'il y a un rapport chronologique par exemple au moment auquel toi tu les as écrits, ou est-ce que vraiment ça a été conçu, comment t'as articulé l'agencement.
Il n'y a pas de rapport chronologique. Peut-être sur les derniers textes d'atelier, ils sont datés. Et ça, il me semble que ça suit et c'est chronologique. Mais sinon, il y a plein de vieux textes que je suis allée rechercher. Il y en a très peu que j'ai retouchés. Et en fait, j'ai fait aussi à partir de matières que j'avais. L'entretien, il n'existait pas au moment où on m'a invité. Il a été fait après, par exemple, autour de mon rapport à la performance et au théâtre. Mais il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu d'organisation en se basant sur une temporalité précise. Il y a des textes qui ont été écrits pour le livre, quelques-uns, mais surtout des vieux trucs que je suis allée rechercher et qui faisaient sens pour moi de publier.
Et par rapport à cette écriture, donc tu écris beaucoup, on le voit dans le livre. Donc tu as refait un petit travail de recherche et de relecture, c'est pas toujours évident non plus de relire. Il y avait beaucoup de matière, comment tu fais? Parce que quand il y a beaucoup de matière, c'est difficile parfois d'aller piocher, d'aller se retrouver dans des textes.
Bah, on a été confinés. Hein. Du coup, je suis allée déballer les cartons de carnet ou les boîtes, c'est plutôt dans des boîtes. Et voilà, j'ai fait quelque chose que je fais jamais, c'est-à-dire relire. Enfin, rebrasser ce qui a été écrit dans le passé, en général, c'est dans les carnets. Le carnet, il se termine, hop, c'est rangé, et puis basta, on passe à autre chose. Et même quand il y en a un qui est en cours, je vais rarement relire ce qui a été écrit. Ça m'intéresse pas trop. Là, pour le livre, bah, je me suis prêtée à l'exercice, et oui, c'est étrange. C'est ce que je disais à la présentation à la BAF, que bah, je vois qu'il y a des trucs sur lesquels j'ai pas du tout bougé. Et je trouve ça un peu flippant. Et que aussi, il y a des choses qui ont changé, enfin, que j'écrirai jamais... ce que j'ai pu écrire à des moments aujourd'hui, parce que j'ai grandi, parce que j'ai changé, parce que j'ai fait des rencontres, et que aussi intérieurement, il y a certaines choses que je vis plus du tout de la même manière. Et après, il y a des trucs aussi que je trouvais très bien, tel quel, je me suis dit « waouh ». Mais ouais, c'était comme une archéologie un peu, ou une introspection, d'aller voir ce qui a été écrit d'intime depuis des années. Et puis, il y a des choses que je trouvais pas du tout intéressantes. Hein. Je me suis pas du tout posé la question. Donc c'est... En fait, ça a été assez facile comme tri, même si ça faisait de la quantité. Et qu'après, j'ai écrémé. Et gardé que ce que je trouvais intéressant, ou beau, ou qui faisait aussi écho à de l'actualité.
Oui, parce que l'actualité, tu l'intègres aussi dans tes performances.
Ouais.
Tu nous interpelles aussi là-dessus. Alors moi, fragment, je ne l'ai pas senti très fragmenté, le livre. Pour le coup, j'ai senti une très grande cohérence. Alors, je l'ai lu dans un... comme on peut lire un livre du début à la fin. Puis je suis revenue, j'ai pioché. Alors peut-être que le fragment, c'est plus perceptible pour toi, parce que tu sais que tu as pioché. Mmh. Moi, je n'ai pas senti ce côté, je prends un bout, je vois... Il y a la manière dont tu interpelles, quelle que soit la forme, elle reste présente. Et donc, quelque part, je me suis sentie toujours liée à l'univers de ton écriture.
Ok.
Donc, je n'aurais pas choisi fragment. D'ailleurs, j'ai fait un petit dessin de spirale, parce que pour moi, c'était plus une spirale.
Mais ça, c'est des choix conscients, quoi, ou c'est dans la pratique d'écriture
C'est dans la pratique d'écriture, et après je pense que le travail il s'est aussi fait du côté de l'édition, c'est-à-dire pour la maison d'édition, j'ai l'impression que moi ce que j'arrivais pas à faire, c'est que même si c'était des fragments, des morceaux de texte que je suis allée piocher à droite, à gauche, ou que j'ai écrit pour le livre, c'était important quand même que le livre fasse un tout, et une cohérence. Et j'ai l'impression que c'est là où on m'a aidée et où on m'a accompagnée, ou que pour moi c'est fragmenté, parce que je sais très bien que voilà, j'ai étalé mes textes, j'ai retapé pour que ce soit dans le livre, etc. Mais que pour la maison d'édition, c'était... Enfin, le coup de main, il a aussi été là, et c'est pour ça que je parlais d'échange et d'interaction, de oui, il y a plein de morceaux de choses, mais en même temps, comment est-ce qu'on fabrique un livre, ouais, qui soit un tout, quoi, un ensemble, et que...
Et le choix du titre, justement, Fragment ?
Moi, c'était une évidence, ça. J'ai pas réfléchi longtemps. C'est pas très original, hein. Y a plein de trucs qui s'appellent Fragment. Des films, d'autres bouquins, mais... Je m'en fous.
Et qu'est-ce que ça fait peut-être pour... Enfin, qu'est-ce que ça te fait, le fait que quelque chose que t'as écrit à la base, sans forcément avec l'idée en tête que ce serait publié un jour, de le voir dans un livre peut-être écrit... Enfin, je sais pas si t'écris. Si t'écris dans un carnet, t'écris du coup manuellement, et de voir ça sur papier, de le voir publié, d'avoir des retours, enfin... C'est peut-être une question qu'on aurait posée à la fin d'ailleurs, normalement, mais... Mais... ouais, qu'est-ce que ça...
Eh ben, c'est un peu étrange, surtout que moi, j'ai du mal à... Je me souviens que les copines à Marseille, puisque j'habite à Marseille, quand il y a eu la première présentation début octobre à la librairie Transit, il y en a pas mal qui m'ont engueulé en disant « Mais on comprend pas, en fait, t'as pas du tout communiqué. Genre, je l'ai su par une telle. » Que pour moi, je pense que je suis assez tranquille que ce soit dans un bouquin qui passe de main en main ou de librairie en librairie. Mais en parler et faire une grosse com autour, bah ça arrive là, alors que c'est sorti au mois d'octobre. Enfin, je pense que je suis à l'aise avec l'objet livre. Après, en parler et en faire des tonnes, c'est plus compliqué. Et que bah des retours que j'ai pour le moment, je suis très contente. Hein, franchement, il y a des retours critiques et constructifs pour la suite, si un jour il y a une suite, et aussi qui sont intéressants à entendre, même si le livre il est déjà édité. Mais sinon, c'est plutôt des trucs chouettes. Soit des personnes qui trouvent que ça fait écho à leur vie, ou qui n'avaient jamais lu de poésie parce que ça les gave, et que là, finalement, ça fonctionne. Enfin, en tout cas, ça leur parle. Pour le moment, ça va.
Mais pour toi, c'est un livre politique ?
Ouais, pour moi, c'est un livre politique.
Comme ça ? Ouais. Parce qu'effectivement, selon les envies, mais pour un peu dire aussi évoquer quelques sujets quand même. Enfin, il y a quand même beaucoup de... Alors, les relations aux autres, le rapport à l'écriture même, la colère, il y a beaucoup sur la colère, récit d'une agression sexuelle ordinaire, des trucs... qu'est-ce qu'il y a de... Mais évidemment, du racisme, enfin, je veux dire, c'est le validisme, il y a plein de choses sur les rapports au corps. Pourquoi je liste tout ça?
Et après... Et après, je me suis pas dit « Ah, je vais écrire un livre politique et je vais sélectionner des textes qui vont être... » Je pense que c'est des choses avec lesquelles je deal au quotidien, et que du coup, comme c'est d'abord une écriture intime, bah... Forcément, ça l'est, mais j'avais pas envie de brandir un truc en disant « Oui, c'est un livre politique, il faut absolument le lire. » Mais c'est aussi politique.
Ouais.
Et je pense que je suis assez tranquille avec ça. Avec des formes variées, mais... C'est pas un mode d'emploi. Voilà, c'est plutôt ça.
Ouais.
Moi, j'ai rien contre les livres politiques, hein, mais en tout cas, je voulais pas que le mien, il fasse mode d'emploi.
Tu veux dire... Donner
des leçons. She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life, with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to
that someday soon enough you will rise up, yeah. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. And she looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping it what you love and you'll find that someday soon enough you will rise up, rise up, yeah.
Underdog d'Alicia Keys, qui est sur son dernier album. Donc Underdog, c'est les opprimés, les outsiders. Voilà, moi j'aime beaucoup ce morceau, j'aime beaucoup cet album. Enfin, de toute façon, c'est une chanteuse et une musicienne que j'apprécie beaucoup. Je trouve que ça dit des choses et qu'à la fois ça donne la patate, parce que le rythme est assez funky.
On se retrouve sur Dégenré, 90.8 sur Radio Campus Grenoble.
Bah, peut-être justement sur ça, enfin pas sur la leçon, mais sur la question. Bah, peut-être par exemple pour moi qui suis pas directement concernée par plein de questions que tu abordes dans le livre, j'en apprends aussi. Enfin, il y a une dimension. Enfin, moi j'y ai vu peut-être une certaine dimension pédagogique pour moi. Et avec aussi la question de la colère, etc. Et est-ce que c'est quelque chose auquel tu as pensé, enfin, à la réception, ou puisque, enfin, je sais pas, comment ça s'articule peut-être pour toi ce truc entre le fait que quand tu as écrit, c'est notamment ce que tu as dit à la base, bah, c'était aussi intime et comme une forme d'exutoire et tout ça, et du coup, quand ça devient comme ça visible. Bah, il y a une réception qui est faite du texte et je sais pas, est-ce que c'est quelque chose que t'as anticipé, auquel t'as pensé ou pas?
J'ai pas trop pensé pendant la fabrication. Je sais pas si on dit ça, fabriquer un livre. Bah ouais, on a qu'à le dire. Le seul texte pour lequel j'ai pensé, c'est le texte autour de la maladie. Où je me suis dit, ah tiens, si j'avais un truc à dire, vu que ça fait 32 ans que ça dure cette histoire. Si j'avais un truc à dire et qu'il y avait des centaines de gens qui allaient lire ce texte, comment est-ce que et quelle forme j'aimerais que ça prenne? Je pense que c'est le texte sur lequel je me suis un peu prise la tête. Parce que je trouve que sur la question du validisme, c'est vraiment hyper compliqué. Et moi-même, enfin, je pense que j'avais intégré un certain nombre de trucs, alors que vraiment, ça fait longtemps que j'ai cette maladie chronique qui me prend de l'énergie et qui du temps, etc. Mais c'est vraiment le texte sur lequel je me suis posée et je me suis dit, ok, comment est-ce que tu aimerais dire les choses? Et peut-être c'est le texte un peu, oui, qui donne des leçons parce que je trouve que c'est fatigant d'être malade dans une société, dans des milieux militants, qui est vraiment validiste Et que même dans une période de pandémie, en fait, on ne se remet pas vraiment en question là-dessus. Enfin, déjà, on aurait eu l'occasion de le faire moult fois. Mais après, pour la réception des autres textes, moi, je ne me suis pas trop posé la question. Je me suis posé la question si, puisque du coup, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a un texte sur une agression sexuelle, de est-ce que mettre un avertissement ou pas, ça vaut le coup. Enfin, voilà. Et je me souviens que finalement, j'ai fait le choix de non, enfin de ne pas mettre d'avertissement ou trigger warning ou de. Voilà. Et qu'on s'était posé la question aussi avec les éditeurs et les éditrices. Et il y a une copine, on se connaît depuis 25 ans, qui m'a dit, et c'est ce qui m'a fait tilt, qui m'a dit mais en fait, le texte sur la violence de nos pères, par exemple, moi, il me fait plus violence qu'un récit de viol. Et du coup, ça m'a un peu. Ouais. Qu'il n'y a pas à hiérarchiser, etc. Mais que du coup, c'est intéressant qu'on se pose la question, mais que pour elle, dans ce cas-là, s'il y avait un avertissement sur un texte, bah, il en aurait fallu plusieurs, et du coup, est-ce qu'on perd pas un peu le sens ? Mais oui, c'est vrai que sur ce texte d'agression sexuelle aussi, je me suis un peu posé la question. Pas tant sur le contenu du texte, mais sur. Il y a un truc. Alors, des fois, quand je signe pour les copines, j'ai attention, il n'y a pas que du léger, mais je suis pas sûre que ça fonctionne.
C'est quand même encore peu partagé par rapport à d'autres sujets, etc. Est-ce que ça rentre en ligne de compte dans la façon d'en parler ?
Tu veux dire par rapport à la maladie ?
De plusieurs de ces sujets. Effectivement, la maladie, mais effectivement, les violences sexuelles. Enfin, il y a plusieurs sujets que je trouve qui touchent à des endroits où on est encore, même dans les milieux féministes, un petit peu, comment dire ?
Notamment la maladie, je trouve.
Oui, c'est vraiment une grande absence. Mm. Et du coup, je ne sais pas c'est quoi exactement ma question.
Tu dis qu'on n'en parle pas assez, et du coup, est-ce qu'il y a eu un impact, enfin, ouais, sur la manière de d'écrire ou de... En tout cas, moi, j'ai l'impression que sur le viol qui s'est passé il y a quelques années, que dans les personnes qui m'entourent et qui ont été violées ou qui sont violées, ça se passe souvent dans un cercle. Enfin, c'est soit le conjoint, la conjointe, un ami, une soirée alcoolisée, je sais pas quoi. Et que j'ai l'impression que, en tout cas dans les milieux féministes dans lesquels je lutte ou j'ai pu lutter, il y a souvent ce truc-là de dire « oui, c'est pas qu'un inconnu dans la rue », etc. Moi, c'était ça. Et que du coup, j'ai l'impression que le fait de dire ça, c'est hyper important qu'on le visibilise, que oui, en fait, ça peut être quelqu'un d'à côté, c'est sûrement une personne avec qui la meuf dort tous les soirs, vit dans la même maison, etc. Mais que ça peut aussi arriver dans le monde du grand dehors. Vous voyez, moi, c'était trois inconnus, je rentrais de soirée, etc. Et que, pour moi, en tout cas, c'était important de le décrire. Alors, pas pour être glauque ou je sais pas quoi, mais que c'est arrivé, c'était comme ça. Je m'y attendais pas, parce que ça fait quand même quelques années que plutôt j'ai plus trop peur de sortir le soir, et que tout ça, c'est revenu à ce moment-là. Et que pour moi, c'était important, il y a une longue liste à la fin de ce texte, de aussi aborder les questions de riposte par rapport à ces agressions sexuelles. Et que je me souviens qu'à l'époque, moi, j'avais dû faire un gros taf, alors que pourtant, je suis féministe, que j'ai pas mal brassé ces questions-là, que bah, y avait un truc où c'était de ma faute. Et ouais, ça m'a... Enfin, maintenant, avec du recul, et même sur le moment, ça m'a, waouh, mis une grosse claque, alors qu'on sait hein, qu'on est les victimes de ça, que les agresseurs, c'est eux. Enfin, pour moi, c'est très, très clair. Mais quand même, quand ça se passe, bah... voilà. Et que j'étais très très contente dans cette période de ma vie d'être entourée et voilà, avec les féministes de Marseille. Et il y a plein de choses qui n'ont pas forcément réparé physiquement, mais qui mentalement permettent de survivre et de tenir, notamment cette marche de nuit qui a eu lieu en 2015, se faire des rendez-vous juste pour se faire du bien, pour en parler, pour parler d'autres choses. On m'a emmenée dans la Drôme, enfin une amie avait fait ça, on y est resté quelques jours. Enfin, juste, voilà. J'ai vu une psy, et que c'est là, c'est pas encore cicatrisé à 100%, mais que, En tout cas, c'était important pour moi d'aborder ce truc de oui, ça peut aussi être des inconnus. Et que même si on est hyper éduqué sur ces questions-là, bah, ça peut mettre une grosse claque. Et après, par rapport à la maladie, moi, pour moi, il y a encore plus énormément de taf à faire. C'est pas possible, en fait. Dans un monde, dans des milieux où on a des corps aussi différents, de faire comme si. Comme si de rien n'était et que c'était pas là. Ou de faire avec. Enfin, à des moments, moi j'ai croisé ça aussi dans ma vie, où à des moments ça va, on va s'adapter ou faire avec ou vraiment inclure, etc. Mais qu'en fait, à un moment c'est fatigant. Mais ces maladies, elles sont fatigantes en fait. Pour les personnes concernées en premier, de. Quand tu dois réadapter ton quotidien sans arrêt, quand tu fais en fonction de l'énergie que tu as, et que tu n'as pas le choix. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a plein de gens qui... Moi, aujourd'hui, je suis fatiguée. Enfin, quand il n'y a pas un boulot à temps plein, je me repose, etc. Mais en fait, quand tu n'as pas le choix et que sinon, tu ne peux pas bouger et que tu sais les conséquences que ça peut avoir, en fait, ouais, c'est fatigant pour nous aussi, quoi. Et que ça va, hein, là-dessus, moi, j'ai encore de la chance d'habiter avec des personnes qui sont à l'écoute... Et voilà, et d'avoir des thunes d'une manière ou d'une autre pour, c'est ce que je disais lundi à la BAF, pour soigner de manière alternative, mais qui a accès à ça?
Ouais, c'est une question que tu poses aussi dans ton livre, sur l'accès aux soins, sur, parce que évidemment, ça pose, la maladie peut poser la question de l'entourage, et que finalement, même si on a un entourage qui est à l'écoute, souvent, au final, c'est quand même sa propre responsabilité. On le porte un peu tout seul, quand même.
Ouais.
Donc, je crois qu'effectivement, on commence à peine à parler de ça. Il faudrait encore...
Que pour moi, c'est en parler et aussi faire. Enfin, moi, par exemple, je suis passée par plein de stratégies. Il y a eu la stratégie de... Bon, on fait comme si de rien n'était, hein, on n'a qu'à travailler comme une connasse, et puis avoir un rythme incroyable, et puis après, tu t'en mords les doigts. Ouais. Ou on n'a qu'à rester toute seule et attendre que ça passe. Sauf que pour moi, ça va à un moment, mais qu'à un moment, en fait, c'est rude, quoi. Et qu'en fait, pour moi, ouais, c'est vraiment aussi comment on fait et comment on prend en compte pour de vrai. Et c'est une gymnastique qui est hyper complexe. Hein. Je ne dis pas que que c'est facile ou que ça pourrait être facile parce que c'est compliqué. Mais comme pour plein d'autres sujets, je trouve qu'il faut qu'on sorte un peu les doigts du cul et que vraiment... Parce qu'il y a aussi ce truc des fois de... Les gens ont tellement compris qu'ils anticipent les besoins de la personne qui est malade. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui peut m'arriver encore. Où tu as envie de dire, non, ça va pas non plus. Enfin, en tout cas, il y a une gymnastique à trouver. Chaque personne est différente. Et du coup, chaque pathologie peut être différente. Et...
Ce qui montre bien qu'il y a encore beaucoup à faire. Mmh. Parce que si on n'arrive déjà pas à ajuster...
Ouais.
Et dans ton milieu professionnel, les employeurs ou les structures dans lesquelles tu as travaillé, ils étaient à l'écoute?
Moi, j'ai été très stratégique, c'est-à-dire que on en parlera tout à l'heure de Carte Noire Nommée Désir, mais avant la tournée, je travaillais dans un centre social, ou plutôt... J'étais chef, petite chef, et que du coup, je pouvais moduler mes temps de travail en fonction des périodes d'activité. Ça, c'était anticipable. Du coup, j'étais coordinatrice enfant-jeunesse. Ça veut dire que oui, il y a des semaines où on accueillait les mineurs, je faisais 50 heures, mais aussi il y a des semaines où je faisais 15-20 heures. Et puis, à la fin, sur les 6 derniers mois, même, je posais une semaine de vacances par mois et que je faisais pas forcément un temps plein les semaines où j'étais là. Ça, c'était facile. Mais du coup, est-ce qu'il faut attendre d'être petite chef pour moduler son temps de travail, c'est hyper compliqué. Et que les personnes n'étaient pas forcément à l'écoute, mais parce qu'elles n'étaient pas forcément toutes au courant. Il y a des gens pour qui... Pour moi, c'est toujours important, en tout cas, que dans l'équipe, il y ait une ou deux personnes qui soient au courant au cas où. Au cas où, je tombe, au cas où il y a une grosse crise, etc. Et après, là, sur Carte Noire Nommée Désir, qui est la grosse performance collective sur laquelle je travaille depuis le mois d'octobre, oui, les gens sont à l'écoute. Et puis on brasse plein d'autres trucs. Enfin, moi, c'est au niveau de la santé physique, mais aussi il y a des personnes qui vont porter des questions plutôt sur la santé mentale. Et que, quand on est... C'est le repos.
Je l'ai trouvé devant ma porte un soir que je rentrais chez moi. Partout, elle me fait escorte, elle est revenue, la voilà. La renifleuse, elle est mourmente, elle m'a suivi pas à pas la gaze. Que le diable l'emporte, elle est revenue, elle est là, avec sa gueule de carême, avec ses larges yeux cernés. Elle nous fait le cœur à la traîne, elle nous fait le cœur à pleurer. Elle nous fait des matins blêmes et de longues nuits désolées l'agace. Elle nous ferait même l'hiver au plein cœur de l'été. Dans ta triste robe de moire, avec tes cheveux mal peignés, t'as la mine du désespoir, tu n'es pas belle à regarder. Allez, va t'emporter ailleurs, ta triste gueule de l'ennui. Je n'ai pas le goût du malheur, va t'en voir ailleurs si j'y suis. Je veux encore rouler des hanches, je veux me saouler de printemps. Je veux m'en payer des nuits blanches, à cœur qui bat, à cœur battant. Avant que ça ne le blême, et jusqu'à mon souffle dernier, je veux encore dire je t'aime, et vouloir mourir d'aimer. Elle a dit, ouvre-moi ta porte, je t'avais suivi pas à pas. Je sais que tes amours sont mortes, je suis revenue, me voilà. Ils t'ont récité leur poème, tes beaux messieurs, tes beaux enfants, tes faux Rimbaud, tes faux Verlaine. Eh bien, c'est fini maintenant. Depuis, elle me fait des nuits blanches, elle s'est pendue à mon cou. Elle s'est enroulée à mes hanches, elle se couche à mes genoux. Partout, elle me fait escorte, elle me suit pas à pas. Elle m'attend devant ma porte, elle est revenue, elle est là. La solitude, la solitude.
La solitude de Barbara, parce que j'aime Barbara. Et que j'aime cette chanson.
Dégenré, 90.8 sur Radio Campus Grenoble. Et aujourd'hui, on reçoit Fatou.
Après, alors on peut parler d'une carte noire de mes désirs. C'est des personnes avec qui tu as déjà travaillé ou que tu connais en tout cas depuis longtemps.
Rebecca Chaillon, qui est la personne qui a préfacé le livre, c'est une amie. C'est une amie, on se connaît depuis 14 ans et on a milité ensemble dans ce truc qui s'appelle Mouvement d'éducation populaire et nouvelle qui s'appelle toujours les CMA. Moi, j'y suis plus trop parce que il y a plein de choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Et après, il y a des personnes dans l'équipe que j'avais déjà croisées mais que je peux pas dire que je connaissais. Et que de toute façon, par exemple, de travailler au plateau avec que des meufs noires ou métisses, bizarrement, ça fait quand même que il y a, en tout cas, on se retrouve autour de quelque chose de commun qui fait que c'est le repos et aussi au niveau de la santé. Quand j'ai une grosse crise au niveau du dos, je peux faire moins de trucs pendant le spectacle, je peux me reposer, on me paye une séance d'ostéo, enfin, et sans poser 400 000 questions, et c'est le grand luxe. Mm-hmm. Ça devrait être normal.
C'est ça. Peut-être, puisqu'on commence à parler aussi un peu de la question du théâtre, on s'est aussi demandé si tu avais déjà aussi écrit des choses pour le théâtre, pour être des pièces, pour être jouées, ou en tout cas pas mal de spectacles d'Imina, par exemple, c'est toi qui l'as conçu. Et est-ce qu'il y a une différence de rapport à l'écriture quand c'est... Enfin, j'imagine que oui, mais quand c'est pour jouer du théâtre et quand c'est dans Fragments, par exemple. Comment tu vois le rapport à l'écriture dans les deux cas ?
Pour moi, le rapport à l'écriture, écrire pour... Moi, j'ai jamais écrit pour du théâtre, jamais écrit pour que ça soit joué par d'autres gens, par exemple. Ça n'existe pas, en tout cas pas encore. Mais par exemple, sur la performance d'Imina, pour moi, la différence du rapport à l'écriture, c'est que pour la performance, tu vas écrire quelque chose. En tout cas, j'ai écrit quelque chose qui va être joué et donc lu, vu et entendu par un public. Et que, du coup, peut-être l'écriture, même si elle est aussi intime et politique et ce qu'on veut, elle va forcément être différente. Parce qu'il faut que ce soit audible, clair, percutant, un peu efficace ou pas, mais en tout cas, pour moi, c'est pas du tout la même chose. Et que dans la tête, de me dire, ok, là, j'écris quelque chose, il faut que ça tourne, il faut que ça joue dans différents espaces, etc. Ça change de fait mon rapport à l'écriture. Et oui, et du coup, le rapport au corps.
Est-ce que tu relis à voix haute quand tu écris?
Ouais.
On sent un rythme.
Ouais.
Dans tes phrases, il y a des répétitions, il y a des, y a des mots que tu replaces comme une musique.
Ouais, ça je fais.
J'imaginais que... Plus pour tous les textes peut-être, du coup.
Eh ben, ceux-là, une fois que j'ai choisi... Peut-être ça a aidé, ça, pour la sélection des textes de fragments.
La musicalité.
Ouais, la musicalité. Les longs textes fleuves, etc. Et c'est ce que je disais lundi à la BAF. En fait, la forme poétique, moi, ça m'est venu qu'à des périodes, j'avais pas le temps de prendre une demi-heure ou une heure par jour. Du coup, je faisais des tirets. Et puis, en fait, il y a des fois où ça fonctionne. Et après, c'est une forme que j'ai travaillée. Mais ouais, comme quand j'écris un texte pour la radio, je lis toujours à voix haute avant.
Et du coup, dans cette voix haute, il y a aussi, je trouve, beaucoup de textes qui nous interpellent parce qu'il y a beaucoup de « tu ». Et donc, du coup, y a à la fois ces formes de liste, le tu, comme ça, t'as besoin de faire quelque part exister déjà celui qui t'écoute quand tu écris.
Bah, les textes en tu, je trouve, ça interpelle. Enfin, c'est clair, quoi.
Mais c'est pour. Enfin, ça me repose la question, tu vois, tu. Parce qu'en fait, quand on lit fragments, on se sent interpellé. On sent quelque chose de travaillé, quoi. Tu vois, on sent pas le... Enfin, peut-être que c'est quelque chose que t'as écrit en faisant des tirines. Parce que t'avais la flemme de faire une phrase.
Bah, je crois qu'il y en a un dans les textes d'atelier. Et après, peut-être les textes en tu, oui, c'est des choses qui ont été relues, enfin, ceux-là.
Et effectivement, dans le théâtre, enfin les performances, je pourrais d'ailleurs savoir exactement c'est quoi la différence entre performance et théâtre, s'il y en a une.
Ouais, tu veux que je te réponde ou tu veux finir ta question?
Ça.
Pour moi, je pense que c'est pas une définition universelle, mais on a qu'à se dire que c'est pas grave. Le théâtre, ça joue dans un espace, il y a des personnes qui portent des textes, des rôles, voilà, c'est assez carré, etc. La performance, les choses, on va jusqu'au bout de la durée des choses. C'est-à-dire que, par exemple, d'un soir à l'autre, pour les gens qui ont vu le spectacle mercredi, l'allumage des bougies, bah, des fois, ça va hyper vite, ça prend 5 minutes, et puis des fois, ça, c'est plus long. Enfin, c'est vraiment la durée des choses, ce qui se passe au moment même, et expliquer ce qu'on est en train de faire. Du coup, ça va être, pour moi, c'est quelque chose, c'est dans un rapport plus spontané avec le public, et c'est aussi quelque chose... Bah, du coup, quand j'arrive dans des lieux, il n'y a pas de fiche technique. Là, au Baratin, d'ailleurs, c'est très, très drôle. Quand j'ai découvert l'espace, je me suis dit « Oh mon Dieu !» C'est énorme. Et faire avec l'espace qui existe, les gens qui sont là, c'est moins figé pour moi. Ouais, c'est plus souple.
Est-ce que tu réagis avec le public si je ne sais pas, comment ça s'agiter, admettons, ou qui parle, est-ce que tu pourrais réussir à intégrer ça?
C'est déjà arrivé. Et par exemple, mercredi soir, il y avait des personnes qui étaient hyper réactives. Bah, pour Carte Noire Nommée Désir, c'est sûr. Enfin, le canevas de texte, c'est Rebecca Chaillon qui l'a écrit. Ouais. Et après, elle a ajouté des choses une fois que l'équipe était constituée et en fonction de qui on était chacun. Moi, j'en ai écrit un aussi. Mais c'est sûr que c'est même si les textes étaient là, parce que ça aurait été un travail beaucoup trop long et qu'elle y tenait de toute façon à écrire les textes, pour moi, c'est comment est-ce qu'on le porte, même s'il y a des monologues, mais comment est-ce qu'on le travaille à plusieurs, comment est-ce qu'on le porte, et que c'est aussi une manière d'écrire, même si c'est sûr qu'on n'a pas écrit tous les textes avec le stylo et le papier, mais c'est comment est-ce qu'on construit les choses sur scène, comment est-ce que les images se construisent, tout ça, c'est collectif. Moi, pour mon solo, j'ai demandé à Marie, qui fait la technique lumière, de jeter un regard, qui fait du conte aussi. Mais c'était plus individuel comme travail. Je pense que ça m'intéresserait plus aujourd'hui d'écrire quelque chose de plus collectif pour de la performance. Et ce que j'ai oublié de donner tout à l'heure pour la définition de la performance, c'est que le corps, en général, il est un peu plus mis en danger. Il y a moins de distance entre le personnage, le texte.
Par contre, du coup, dans les écritures collectives, vous êtes obligé d'avoir une forme de fil conducteur, de script ou pas?
Bah là, on... Oui, il y a une dramaturgie.
Ouais.
Mais c'est pareil, c'est ce truc de cohérence, de lien. Mais il faut le voir pour comprendre qu'Carte Noire, c'est un spectacle qui dure 2h40. Et du coup, il y a vachement d'images, beaucoup de tableaux. Et que oui, c'est sûr qu'il y a une dramaturgie, quoi. Les choses, elles se font pas comme ça. On passe pas d'un truc à l'autre.
Enrichissant, du coup, c'est la première fois que c'est un travail aussi collectif,
Carte Noire de Médésir. Ouais, c'est enrichissant, on va en parler au présent, parce que l'année prochaine, on a encore une grosse tournée. Oui, oui, c'est enrichissant. Pour moi, c'est un espace d'apprentissage et puis de rencontre aussi. Enfin, je trouve qu'on a eu un an, en tout cas moi, pour ma part, un an et demi de faille spatio-temporelle, un peu où je bougeais beaucoup moins avec cette histoire de Covid, où je rencontrais moins de gens, aussi parce que moins d'événements, enfin, mes modes de sociabilité, elles ont un peu changé. Et que là, boum, même si on avait eu 4 résidences avant, mais de 5 jours, 5-6 jours plutôt, bah, ça fait que... Il y a une équipe avec laquelle, a priori, tu vas travailler dans la durée et qu'on continue à se rencontrer encore. Et qu'on a l'impression d'avoir fabriqué un truc incroyable et que ce soit pour l'équipe au plateau, l'équipe technique, enfin, moi, je trouve ça trop bien. C'est confortable, en tout cas, aussi. Même si j'ai beaucoup l'habitude d'écrire seul, eh ben, se retrouver à plusieurs, à apporter des textes à plusieurs, je trouve ça aussi confortable.
En tout cas, les espaces de... Tout à l'heure, je ne sais plus comment ça a été nommé, mais l'écriture comme... je ne sais plus si c'était réparation...
Exutoire.
Ou... Et oui, voilà, c'est ça. Bon, est-ce que l'écriture, du coup, ça marche comme processus de...
De tout.
Voire de réparation, ouais, c'est ça. Mmh. Et aussi pour des choses pas que difficiles, lourdes...
Ouais, carrément. Même si je vois bien... Parce que les questions à la baffe m'ont quand même un peu fait réfléchir que peut-être je suis plus détendue... avec l'écrit, c'est-à-dire moins de rigueur, là, ce truc de une demi-heure à une heure par jour, etc., quand tout va bien, que quand je suis dans des périodes un peu down ou que c'est compliqué, peut-être que je vais le tenir, tu vois. Là, ça m'a un peu fait réfléchir. Même si j'essaye hein, quand même de tous les jours. Mais en tout cas, pour moi, quand je dis exutoire, c'est pas... je vois pas ça que au sens péjoratif du terme de « Ah, ça va pas, du coup, blablabla. » C'est ça. Mais c'est aussi quand ça va bien, c'est aussi quand il y a une idée, c'est aussi... ouais, c'est important de noter les choses aussi, pour moi, pour pas oublier. Par exemple, quand j'ai refouillé dans les carnets pour fabriquer Fragments, je suis tombée sur toute la période Charlie Hebdo. Mais j'avais oublié tout le tapage qu'il y avait eu, enfin... Et je me suis dit, ah ouais, waouh. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, c'était bien trash cette période, mais... Mais en tout cas, pour moi, ça me permet aussi de garder une trace et peut-être pas des choses essentielles de la vie, mais...
Et du coup, c'est ritualisé ?
Ouais.
Enfin, tu sais exactement quand t'écris ou c'est...
Le matin. Ou dans le train. Comme je prends beaucoup le train en ce moment.
Un.
Ouais, j'aime bien le matin. C'est très ritualisé, le réveil. Le réveil, le pipi, se laver les mains et le visage. Hop, on remonte écrire un peu et puis après, on peut petit déjeuner, tout ça.
Mais du coup, quand même, enfin, le fait que tu écrives comme ça tous les jours et tout, c'est quand même vraiment un travail aussi. Parce que pour beaucoup de gens, d'ailleurs, c'est un peu la question déjà que je t'ai posée à la baffe en fait, mais moi je sais que ça peut m'arriver d'écrire comme ça, ce truc d'exutoire, mais pas du tout un travail du coup sur la forme. Et toi, il y a quand même toujours ce travail sur la forme de ton texte.
Pas forcément.
Ah ouais ?
Non. L'écriture.
Naturellement.
L'écriture quotidienne ?
Oui.
Ah non, pas forcément.
Et c'est quoi qui fait que tu... Pour toi, c'est important de le faire tous les jours?
Peut-être j'ai peur d'être moins souple après. C'est un peu comme la gymnastique ou le sport. Après, moi, j'aime les rituels. J'aime... Enfin, du coup, j'ai l'impression que c'est un rituel parmi tant d'autres.
Est-ce que tu écris en silence?
Ouais, des fois, j'écris des trucs dans ma tête. Mauvaise idée. Comme quand t'es à la fac, ouais, c'est bon, j'ai écrit dans ma tête.
Je sais, ça marche jamais, ça.
Ça marche pas. Après, t'oublies, ou en fait...
Ou alors tu as cru que ton idée était très bonne.
Ouais, en fait, non.
Mais,
juste pour, encore pour cette question d'écriture, est-ce que de la fiction pure, tu as déjà écrit?
Non.
T'as jamais eu envie?
Bah, je sais
pas. Le moment.
Hein?
Peut-être pas encore.
Peut-être pas encore. Mais quand j'ai de la fiction, franchement, c'est chaud. Faut avoir les idées, le final, les personnages. Non, j'y ai pas encore pensé. Je trouve que plein de gens font ça vraiment hyper bien, en plus, du coup, ça...
Et même pour la radio ?
Pour la... Ah bah si, il y a une nouvelle émission qui est en train de se lancer à Marseille. C'est vrai qu'on a écrit une petite fiction, une petite fiction sonore, mais à plusieurs. Et après, non. Sur les chroniques ou des choses, plein de choses que je peux faire à la radio, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de fiction.
Et dans ce que tu lis, il y a de la fiction ?
Ouais, dans ce que je lis, il y a de la fiction. Je lis du roman. Mais ah oui, le roman aussi, c'est de la fiction. Mais la science-fiction, par exemple. Ah, oui. Ouais, bah moi, il y a Leonora Miano, hein, que je suis depuis longtemps. Pour ses romans, pas pour ses essais. Mais j'aime, je suis fan. Et oui, chez les romanciers et les romancières, bah, y en a plutôt pas mal hein, que je lis. J'aime Lola Lafont, même si des fois c'est. Mais ouais. Ouais, ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et j'avoue que dès qu'elle sort un bouquin, bah,
tu le cherches.
Je le cherche. Mm. Et après, en termes de science-fiction, pour moi, la révélation de ces dernières années, Rebecca, elle en parle dans la préface, c'est Neddy Okorafor, qui... Après, moi, je lis pas l'anglais, mais en tout cas, la traduction, même, c'est... ça m'a fait « waouh mm-hmm. !» Zami d'Audre Lorde, enfin... Mais ouais, peut-être celle que je suis et que je lis depuis le plus longtemps, c'est Leonora Miano. En tout cas, sur la durée et sur... J'aime beaucoup.
Ne viens pas faire le gangster. À mes yeux, t'es qu'un mortel. Tu vas crever tout comme moi, tout comme elle. Tu vas mourir et puis qu'est-ce que t'auras laissé? Que de la merde, je te conseille de mettre ton cœur à l'essai. Car j'ai compris après des années d'égarement que ni les hommes ni l'argent ne font le bonheur des gens. Aucun humain n'a eu le pouvoir de me soigner quand après la gloire dans le noir je me suis noyé. Je ne dois mon talent à personne sur cette terre, ni à mon père, ni à ma mère, pour ça que je regarde souvent le ciel et que je demande qu'on fasse de moi quelqu'un de fiable et de fier. J'ai retrouvé mon honneur, un bonheur sans limite, loin des heures du showbiz et de ce monde sans mérite. Et parti comme c'est parti, ce morceau va faire mal. Appelle-moi la Poucave ou la rebelle infernale. Je vais te dire ce que j'ai vu, tu me diras ce que tu en penses. Faut croire que dès le début, c'est de la faute de la France. Ce pays n'a qu'une valeur, celui du cours de la bourse. Et peu importe si son peuple ne peut pas faire un plein de bouffe. Ça donne des mères angoissées et des pères sous pression, puis des familles entassées dans du béton. Aucune valeur ne me ressemble dans leur putain d'assemblée. À gauche, à droite, ils veulent tous se ressembler. De façon, ils veulent le beurre et l'argent du peuple, mais ils n'auront pas nos cœurs, ni nos frères et nos sœurs. Se prennent pour qui à vouloir faire la morale et nous faire croire que ce pays c'est des petits blonds dans une chorale. Dans ce pays c'est des ritales, des noirs et des arabes, espagnols par héritage, des auvergnats qui font du rap. Ce pays c'est des portugais qui se saignent à la tâche, guadeloupéens en martiniquais qui se fâchent quand on les taxe. Ce pays c'est tout un tas de couleurs, tout un tas de cultures, tout un tas de douleurs, tout un tas de futurs. Ce pays c'est une banlieue qui aimerait qu'on la regarde et qui fait péter les pétards quand on la traite de racaille. Les plus grandes stars qu'elle ait portées ne sont pas James et Jamel, mais surtout l'abbé Pierre et sœur Emmanuel, paix à leurs âmes. Loin des pantins et des guignols qui ont pour seul bagage un cul en couffe de la presse people. Faites pas croire que le mérite c'est d'être peuf daddy. Va le dire à ma mamie, elle va te dire que t'es pas in. Elle va te dire qu'en Afrique y'a plein de gosses qui crèvent de la gale et que sur le parvis de l'île les SDF crèvent la dalle. Le mérite est dans les bras de ta mère, donc ne te braque pas. Petite sœur, si c'est à Lascar, ne le traque pas. Je sais de quoi je parle, je me suis fait avoir. Les plus grands des mythomanes peuvent venir t'inviter à boire, te promettre la lune pour au final être des diables. Désormais qui veut ma plume doit me parler de mariage. J'ai bien grandi depuis le temps où on me voyait à la télé. Entre temps j'ai pris 2-3 trompes, j'ai pris 2-300 dans la gueule et j'ai observé le globe. La bêtise de l'homme c'est guerre pour l'or et le pétrole. Avec les politiques français j'ai clairement lâché l'affaire. Franchement, qu'est-ce qu'ils vont faire pour sécher les larmes de nos mères? Le président ne nous aime pas, je l'ai lu dans ses feux. D'ailleurs il ne s'aime pas non plus, ça se voit dans ses yeux. Moi j'ai de l'amour en moi et très très peu de haine. Je la réserve pour quelques journalistes de merde. Et pour Le Pen, je suis cordial, messieurs, mesdames, tout en douceur. Si vous ne nous aimez pas, allez faire un tour ailleurs. Parce qu'on reste là et on va prendre ce qui nous est dû. Ce pays ne nous gêne pas, c'est fou qui êtes des nuls. Moi je suis trop yes, je suis trop wesh, j'ai trop de dégaines. En attendant, j'aime les lettres et je lis Vice again. J'écoute Medine et Kerry James à l'arrière de la Merco Benz. Refou le 113 quand je voyage en première, je fais du rap. Ne confondez pas avec le slam, chez nous y'a de la rage. J'ai du style en plus d'avoir une âme, on n'est pas là pour plaire. Clairement, y'a une barrière, la variette, je lui vole ses airs, moi. Et alors qu'est-ce qu'elle va faire. Je fais mes petits tubes sans faire exprès, un peu comme les ch'tis. Vive le populaire, je suis ni bobo ni travesti. J'ai un BTS banlieusard et une famille en or, donc j'ai les armes pour me défendre quand parfois on m'aborde. Et si toutefois tu m'abordes, serre-moi la main car je suis comme toi, comme toi. Je n'ai rien d'exceptionnel. Et si des petites sœurs veulent être comme moi, il va falloir que je me grouille d'être un modèle. Il faut vite que je construise autre chose que des disques. Qu'on me cite comme une mère de famille qui milite, comme une sœur au grand cœur qui prône la charité. Et si j'ai un mari qui tue, bah je m'en fous de ta parité. Je suis une princesse, tout ce que je mérite c'est un royaume. Pas d'avoir à faire des courbettes devant des clowns et des gnomes. Je prône l'honneur d'un peuple, celui de nos pères et nos mères. Lève ta main en l'air, fier de leurs valeurs. Pour leurs enfants, ils peuvent tout perdre, ils peuvent tout faire. Ils ne nous voleront pas nos cœurs, ils peuvent violer nos salaires, on fera la guerre 35 heures. Ce pays nous cite l'Afrique pour se donner bonne conscience, mais regarde l'Amérique comme modèle de bon sens. Alors on sucre des postes, surtout dans les écoles, pour ça que les jeunes ne parlent plus qu'avec des lol. Ce titre n'est pas que le fond de ma pensée, mais un résumé de ce que j'entends chez beaucoup de Français. Masta, mets-moi un petit son à la cabrelle, vu qu'ils disent que notre musique c'est de la merde. On va plagier la chanson française, car va falloir qu'ils comprennent. Gentiment, tranquillement, sereinement, avec le sourire, un petit message à tous les politiques intolérants. Comme pour votre cousine Marine, je vous emmerde. Ah ouais. Est-ce que la France est sérieuse? Eh Marianne, regarde-moi dans les yeux. Ok, ok.
L'honneur d'un peuple, de Diams. C'est son dernier album avant que elle fasse plus de rap sur l'album SOS. Et bah faut juste l'écouter et ça dit plein de choses.
Moi j'aimerais bien venir revenir sur une de tes phrases.
Ouais.
Tu dis, page 72, le fragment, j'habite le mouvement.
Ah ouais.
Que je trouve vraiment très beau. Alors moi j'aime bien la poésie, donc de toute façon... C'est une écriture qui me fascine et ton écriture, du coup, je suis rentrée dedans vraiment avec beaucoup de plaisir. Et alors cette phrase, je l'ai trouvée très... enfin, moi, elle m'a beaucoup parlé. Est-ce que tu peux en dire plus pour ceux qui, ou celles qui n'ont pas lu, ou comment tu l'as imaginée?
Sur habiter le mouvement? Bah, parce que pour moi, le mouvement en soi, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on cohabite ensemble. Alors, il y a le mouvement intérieur. Moi, j'ai grandi dans une famille où la spiritualité, les rituels, c'était très... Je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai gardées, avec un père guérisseur notamment. Et du coup, déjà, quand j'étais enfant et ado, eh ben, y avait ce mouvement de... J'étais perdu, hein, j'ai commencé par être perdu, entre être chez mes parents, être à l'hôpital, être dans des centres de rééducation, revenir chez les parents, aller chez la grand-mère, pas biologique, mais qui était tout comme... Enfin, du coup, ça faisait sans cesse un va-et-vient d'espace plus ou moins confortable, en fonction des moments. Et après, j'ai grandi, et même avant de grandir, nos parents, ils avaient cette espèce de mythe, je sais pas qui leur a dit un jour, il faut envoyer les enfants en colo, ça leur aidera à mieux s'intégrer. Du coup, toutes les vacances de printemps, en tout cas moi, quand j'avais la possibilité côté santé, on était en séjour, donc j'ai découvert plein de lieux de France que mes parents auraient jamais pu... me faire découvrir, et à chaque fois j'étais waouh! Et il y avait les allers-retours au Mali, et après j'ai grandi, et j'avoue, moi j'adore le train. Enfin, ça nous coûte en termes de stratégie et tout, parce que c'est hors de prix maintenant, mais j'adore voyager, passer d'un point A à un point B, me retrouver dans des villes que je connais plus ou moins. Et après il y a le mouvement. Ça, c'est la mobilité de manière générale. Et il y a le mouvement, tout le mouvement qui est pas lié à la mobilité géographique. Enfin, moi, mes parents, c'était des prolétaires, des gens plutôt pauvres, même très pauvres. Aujourd'hui, tu vois, on est à 3 dans 160 mètres carrés, on loue et aucun et aucune d'entre nous ne pourra acheter une maison, en tout cas parmi les cohabitants et les cohabitantes. Mais je vois bien que ma vie... elle n'a rien à voir avec la condition de vie de mes parents, et que pour moi, ça, c'est déjà un mouvement en soi. J'ai fait des études universitaires, ma mère ne savait ni lire ni écrire, ni le français, ni une autre langue. Qu'on a des parcours complètement différents avec mes frères et sœurs sur plein de choses. On ne va pas s'étaler là-dessus. Mais ouais, pour moi, c'est comme si ma maison, enfin en tout cas là où j'habitais, bah, c'était aussi le mouvement. C'est très important pour moi d'avoir un espace. En plus, là, j'ai une chambre indécente, mais un espace où je peux dormir, où je peux être seule, où je peux danser, faire des auto-booms, etc. Mais c'est aussi hyper important pour moi de pouvoir bouger. Je ne parle pas forcément d'aller faire du tourisme je ne sais pas où, mais juste de pouvoir bouger, de ne pas rester figé sur des choses, de ne pas rester figé sur place. Et ça, je pense que c'est lié à la maladie, à des peurs pendant des années où vous voyez les médecins avec leurs espèces de pronostics de dire que bon, à tel âge, de toute façon, vu là où vous en êtes, vous ne bougerez plus.
Oui.
Et que je pense que c'est lié aussi très fort à ça. Pas que, mais... Mais qu'en tout cas, pour moi, c'est... Et pour moi, le mouvement, c'est aussi se poser des questions. Enfin, pas être tac-tac. C'est bien, on est à la radio, du coup, le tac-tac, il se voit pas. Mais vous voyez, hyper rigide sur des trucs, je le suis, hein, mais... Ouais, c'est un mouvement en général.
Du coup, c'est moins vertigineux, puisque il est habité, ce mouvement, par rapport à ton enfance, donc ça pouvait être un peu plus vertigineux.
Ouais, c'est beaucoup moins vertigineux.
Mais en tout cas, ça s'entend pas du tout non plus comme une fuite.
Non. J'ai fui de chez mes parents à 18 ans, quand même, mais dans ma vie en général, non, moi je vis pas ça comme une fuite. Et aussi, c'est ce qui m'a permis de rencontrer plein de gens et plein d'espaces et de découvrir des lieux collectifs que je pensais pas que ça existait. Enfin, ouais, c'est ce qui m'a permis de rencontrer, en tout cas facilement, le fait de pas toujours être dans un même espace, brasser avec les trois mêmes personnes.
Ce serait bien de se proposer de lire un extrait.
Puisqu'on y est, nous avons bien joué. Nous avons bien rigolé, des conneries et de l'absurdité. Parfois, nous avons pleuré à chaudes larmes, parce que la confiance a volé en éclats. On a ri à gorge déployée de la rudesse de nos vies, de la trajectoire de nos parents. Des anecdotes trash racontées entre le mafé et le bissap. À des moments, on en a même été fiers. On a serré les dents, les poings et les fesses. On a rempli des carnets à l'encre de nos colères. À l'encre de nos tristesses, à l'encre de nos regrets, d'en avoir enduré encore, d'avoir laissé passer encore, à l'encre de nos joies, à l'encre de notre sang. Nous, enfants de la énième génération d'immigrés, blablabla. On ne se justifiera plus. Nous prendrons la place qui ne sera jamais donnée. Nous ne courberons pas l'échine comme nos mères. Nous userons de stratégies pour s'offrir du répit et du confort. Même infime, à l'abri des regards indiscrets. Nous créerons avec nos pères, P-A-I-R-E-S. On sortira de nos vies les alliés en carton. Les pleurnicheries et la merde entassée. On prépare le terrain pour les plus jeunes. Déjà au taquet. On brûlera les leurs. Nous n'attendrons plus le train en retard sur les luttes antiracistes. L'antiracisme n'a rien de classe, c'est nécessaire. En pensant le contraire, on permet à des personnes blanches de se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas et ce qu'elles ne seront jamais. Nous fonçons parfois tête baissée, guidés par la boussole de nos intuitions. Nous nous organisons, et oui, nous nous organisons. On va ouvrir fort nos gueules. On va en avoir rien à foutre de leur culpabilité. On va aller loin et haut. On va faire avec notre âge intérieur la colonne vertébrale de nos vies. On va tomber de haut et se relever ou pas. On va chuter de haut et se dire à quoi bon. On va leur dire qu'ils et elles sont beaux et fortes. On va aiguiser nos langues. On va ouvrir encore des portes. On va même les enfoncer. On va faire vivre nos identités hybrides sans plus jamais en avoir honte. On va arrêter de faire semblant. On va arrêter d'attendre, d'avoir des attentes. On arrête de croire aux espaces safe. Il paraît que ce sont toujours les mêmes qui se sentent bien, partout. Il paraît que ce sont toujours les mêmes qui ont le droit d'exposer leur vulnérabilité. Parfois, pour survivre, on va faire du chacune pour soi. Et ça ne regardera personne d'autre que soi. On va ritualiser nos vies pour nos paix intérieures. On va poser les boucliers pour s'offrir douceur, fragilité et sensibilité. Nous ne serons plus vos cautions, à chacune ses responsabilités. On retoquera aussi nos camarades, nos potentiels alliés, nos amoureuses, nos collègues, sans jamais y laisser trop de plumes. À chacune ses responsabilités. Vous n'avez pas à faire de nous un tout, l'État s'en charge déjà. Nos intérieurs n'ont pas à se consumer autant. Nous luttons. Même quand nous disparaissons de vos espaces, nous luttons. même quand nous disparaissons de nos espaces, avec du doux et du beau, avec de la rage et un peu de courage. Peut-être juste un petit mot pour conclure, dire que moi je l'ai fait, j'ai fabriqué ce livre, enfin il n'y a pas trop de prétentions, etc. Et que en tout cas je pense à mes pères, P-A-I-R-E-S, qu'on a le droit de s'autoriser de raconter d'une manière ou d'une autre nos vies, nos histoires, enfin si on en a envie, je trouve que c'est cool de s'autoriser et d'arrêter d'attendre. Parce qu'elles valent le coup d'être racontées. Voilà. Et je remercie les personnes qui, en tout cas qui me ressemblent ou pas, qui se sont reconnues dans pas mal de textes et qui l'ont fait savoir. Et que, du coup, je trouve ça rassurant, ça veut dire que ça parle, quoi. Au revoir, dégenrés.